On va continuer à évoquer les républicains, mais les républicains d'outre-Atlantique, et plus précisément Donald Trump, en compagnie du journaliste américain Thomas Frank, dont le livre « Pourquoi les riches votent à gauche » est publié en français aux éditions Agone. Thomas Frank, la stratégie que mène aujourd'hui Donald Trump, il a annoncé d'ailleurs qu'il nommait quelqu'un pour assurer sa campagne, sa prochaine campagne présidentielle. Cette stratégie vous paraît-elle habile pour être réélu?
His strategy doesn't seem to be good. Well,
you know, it didn't
seem to be very good last time either.
Bah, ça semblait pas être très bon la dernière fois, mais il a quand même gagné.
Let me say one thing about
Donald Trump. Je voudrais dire quelque chose au sujet de Donald Trump.
Donald Trump is a terrible politician.
C'est un très mauvais politicien, mais il a réussi à défaire, à battre les démocrates. Que Donald Trump soit là dans un an ou dans six ans, il y en aura un autre de Donald Trump. Et le prochain Donald Trump ne sera pas aussi idiot que celui-ci. Il ne fera pas autant d'erreurs. Il n'insultera pas d'autres groupes ethniques. Mais les républicains américains, hein, ne vont jamais reculer de la stratégie adopté par Donald Trump.
Mais, par exemple, la politique étrangère de Donald Trump, est-ce que celle-ci vous paraît stratégiquement malhabile? Lorsque, par exemple, il souhaite dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien, lorsqu'il déplace l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, est-ce que cela déplaît la majorité des Américains, selon vous?
Les Américains se fichent de la politique étrangère. La seule politique étrangère dont ils s'occupent, c'est la guerre. Vous savez, l'ASEAN, les accords économiques, c'est tout ce qui les intéresse. Donald Trump a parlé des accords commerciaux pendant tout le temps de sa campagne. C'est une stratégie très, très intelligente. Et vous savez, les cols bleus savent que ces accords ont été signés pour détruire leur vie, leur emploi. Et pourtant, il en a parlé.
Justement, dans le dernier numéro de The Atlantic, un magazine américain plutôt classé à gauche, il était dit que la cause principale de l'élection de Donald Trump, c'était l'anxiété sociale. Le protectionnisme, c'est une manière de répondre à cette anxiété sociale, Thomas Frank.
Yes, that's clearly true.
Mais c'est tout à fait vrai.
There's also a particular detail.
Mais il y a un détail très particulier.
The most important trade agreement in American history.
L'accord commercial le plus important de l'histoire américaine a été signé par Bill Clinton, l'époux de Hillary Clinton quand Bill était président. Et cet accord a été vraiment combattu par les syndicats et tous les employés, tous les travailleurs. On luttait contre ça, parce que ça détruisait leur mode de vie. Et quand Trump a dénoncé cet accord, mais c'était vraiment une décision extrêmement intelligente de sa part, parce que Hillary Clinton, elle est identifiée avec ses accords de commerce, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, parce que son nom est Clinton.
Mais alors, justement, lorsque vous avez critiqué, je dis vous aussi, Thomas Frank, mais lorsque la gauche américaine a critiqué Obama, l'a critiqué notamment pour sa mollesse, que vous estimiez être sa mollesse, est-ce que rétrospectivement, vous ne vous sentez pas coupable de l'élection de Donald Trump?
Non, moi j'ai voté pour Hillary Clinton. J'ai toujours voté pour les démocrates. Donc, en Amérique, les journalistes critiquent ceux qui sont au pouvoir. C'est une tradition. Et si quelqu'un est responsable pour l'élection de Trump, je pense que c'est Obama. Et la raison pour laquelle je le dis, est-ce que vous vous souvenez de la crise financière? Vous savez, l'Europe en souffre encore de ce que Wall Street a fait il y a 10 ans. Et c'était entièrement dans le pouvoir de Barack Obama de punir cette industrie, de reconstruire cette industrie, de vider les gens qui étaient responsables de cette industrie, de les poursuivre, ces types qui étaient en charge de cette industrie. Et il n'a rien fait de tout ça. S'il avait fait quelque chose, il aurait été extrêmement populaire. Il aurait été aimé jusqu'à ce jour aux États-Unis. Et les démocrates seraient responsables et à la tête des deux chambres. Et ce serait une renaissance extraordinaire. Mais il n'a rien fait. Et si vous voulez savoir pourquoi il ne l'a pas fait, on peut en parler. Mais il ne l'a pas fait.
Parlons-en.
This is, and this will get us to Harvey Weinstein too,
et ça va nous amener à Harvey Weinstein, d'ailleurs. Le Parti démocrate, traditionnellement aux États-Unis, a toujours haï Wall Street, en revenant aux jours de Thomas Jefferson. Le Parti démocrate hait les banquiers. Il y a une haine des banquiers. Mais sous Bill Clinton, ça a commencé à changer. Et le Parti démocrate a commencé à s'identifier à Wall Street et aux banquiers. Et avec Barack Obama, vraiment, ça a pris une ampleur extraordinaire. Son administration était pleine de banquiers. Ils ont refusé de poursuivre les banquiers. Pourquoi ça s'est produit? Le Parti démocrate a décidé, à un moment des années 70, des années 80, qu'il ne voulait pas être le parti des travailleurs. Il ne voulait plus être le parti des travailleurs. Il voulait être le parti des cols blancs, de la classe professionnelle, comme on dit aux États-Unis. Très éduqués, très cultivés, des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Les 10% les plus riches aux États-Unis. Le Parti démocrate a décidé que c'était avec eux qu'il voulait s'identifier, à eux qu'il voulait s'identifier, d'être les gagnants. Être gentil avec Wall Street faisait partie de cette stratégie. S'identifier à Hollywood faisait partie de cette stratégie. De la vallée de Silicon Valley, ça faisait partie de cette stratégie. Ben voilà ce qui reste de la gauche aux États-Unis. C'est le parti des gens les plus éduqués, très riches, des professionnels.
Harvey Weinstein soutenait par exemple les démocrates.
Oh yes, Harvey Weinstein. Yes, ah, oh, I'm sorry, I didn't understand. Yes, Harvey Weinstein
oui, oui.
was a
Harvey Weinstein était vraiment quelqu'un qui levait des fonds pour les démocrates. C'était un grand ami de Hillary Clinton et de Bill Clinton et de Barack Obama. Et lui, c'est vraiment un producteur de Hollywood. Et il est typique de ce que les démocrates aiment. Et il levait beaucoup de fonds pour les démocrates. Il est exactement le type de personne auquel les démocrates s'identifient aujourd'hui. Et attention, c'est le parti de gauche aux États-Unis. Et c'est à ces gens-là qu'ils s'identifient. Pas avec les travailleurs, les ouvriers du Kansas, de la classe ouvrière, non. Ils s'identifient aux producteurs de Hollywood.
Voilà. Mais alors, dans ces conditions, la stratégie de Donald Trump, la stratégie politique de Donald Trump, elle n'est pas si mauvaise que cela, parce que Donald Trump, c'est un capitaliste, mais d'abord, contrairement à ce qu'il dit, c'est un petit capitaliste. Ensuite, c'est quelqu'un qui est plutôt du côté du capitalisme immobilier, pas du capitalisme boursier. Et lorsqu'il tient un discours contre les banques, contre Wall Street, même si ce discours est évidemment purement verbal, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, eh bien finalement, il obéit un peu aux recettes que vous fixez, Thomas Frank.
Yes, that is exactly right.
Tout à fait, oui.
Donald Trump badmouthed the banks a lot, insulted the banks.
Donald Trump a beaucoup insulté les banques pendant la campagne électorale, sans cesse. Oui, c'est une chose très populaire à faire aux États-Unis. En tant que président, qu'a-t-il fait? Il a diminué les impôts des banques, il a déréglementé les banques, donc on réduit la réglementation des banques. C'est très typique des politiciens de droite aux États-Unis, c'est qu'ils font semblant d'être populistes, ils font semblant de s'occuper de la classe ouvrière, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font des faveurs extraordinaires pour les plus riches.
Mais alors, je vais vous reposer la même question. Dans ce cas-là, pourquoi cette classe ouvrière américaine ne se réveille-t-elle pas en disant qu'elle a été trompée par Donald Trump? On a déjà vu des électeurs qui sont des électeurs déçus, en colère, et qui ne voudraient pas revoter pour le même candidat.
So, let me just say about the anger in America.
Je vais parler un peu de la colère aux États-Unis.
People are furious.
Les gens sont furieux aux États-Unis. Furieux. La classe moyenne se désintègre sous nos yeux aux États-Unis. Moi, je viens du Kansas. Si vous allez dans les petits patelins du Kansas, dans cette partie du pays, la rue principale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de magasins. Si vous allez dans des grandes villes comme Cleveland ou Détroit, dans l'Ohio ou dans le Michigan, partout, c'est la même chose qui se produit. C'est la ruine. C'est la ruine des zones, des régions du pays qui étaient très productives. Et tous ces gens sont furieux. Donc la question, c'est la suivante. Alors, quel est le parti qui va capturer cette colère? Et les républicains font un excellent travail en prétendant d'être eux aussi en colère contre les puissants. Et les démocrates disent, eh bien, ils apparaissent comme des gens extrêmement contents. Ils représentent l'ordre, ils veulent faire tout de façon raisonnable, ils veulent toujours passer des accords avec leurs opposants. Ils sont très, très modérés en politique et dans la façon dont ils se présentent. Ils sont inconfortables. Ils sont inconfortables avec le mécontentement, avec la colère. Et ils sont très inconfortables avec les ouvriers.
Alors, au moins, Donald Trump essaye-t-il de rendre, ce sont ses mots, hein, de rendre sa grandeur à l'Amérique. Par exemple, quand il était venu en France à l'invitation d'Emmanuel Macron pour le 14 juillet, il avait trouvé que c'était très bien d'avoir un défilé militaire, qu'il voulait le même. Peut-être que ce que les Américains veulent, c'est un président qui, symboliquement, fasse en sorte que l'Amérique soit à nouveau un grand pays, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Frank?
You know, he might have his. Yes, he wants to have a parade,
mais
a big
oui,
military
lui aussi
parade
veut avoir
in America.
Un défilé militaire
aux
États-Unis.
This seems ridiculous.
Ça semble ridicule.
Obviously, just symbolism.
C'est du symbolisme de façon évidente plutôt que d'être de la réalité. Et jusqu'à présent, il en a fait très peu pour contenter les travailleurs, les cols bleus qui ont voté pour lui. Il en a fait très peu pour lui, pour eux. Et vraiment, franchement, un défilé militaire, ça ne va pas faire grand-chose pour eux. C'est du pain et des jeux du cirque, hein,
alors,
c'est pas autre chose. Son goût pour la grandeur est ridicule.
Ridicule peut-être pour vous, mais est-ce que ça ne fonctionne pas auprès d'une partie de l'électorat?
I don't think so.
Non,
America
je pense
has
pas.
A very Republican streak with a lowercase r. I mean, Republican in the French Revolutionary
sense. Les Américains ont un sens très républicain, avec un petit r. Hein, ça veut dire dans le sens de la République, comme en France, pas le Parti républicain. On méprise aux États-Unis tout genre de snobisme. On n'aime pas ça, on le hait. Et on n'aime pas le militarisme aux États-Unis. Ça peut vous surprendre, hein?
Parce que mais non, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un certain nombre d'interventions militaires, que notamment le caractère.
Oh, yes, you've heard about that.
Ben
yes.
Oui, vous avez entendu parler de ça, ouais, c'est certain.
We're bombing seven countries.
On est en train de bombarder sept pays en ce moment.
Alors,
oui.
Comment expliquez-vous dans ce cas-là que le militarisme ne soit pas une valeur plébiscitée aux États-Unis?
Well, that's again, this is my own personal interpretation.
C'est mon interprétation toute personnelle, bien sûr. Mais nous n'aimons pas les généraux qui se croient arrivés comme Douglas MacArthur, par exemple, des gens de ce type-là. Toute personne qui se croit être vraiment meilleure que les autres est automatiquement suspecte à nos yeux. Ce qu'il faut que vous compreniez au sujet des États-Unis, c'est que c'est une société profondément démocratique.
D'accord, mais le personnage, par exemple, du soldat hâbleur, par exemple Patton, le type qui parle mal, celui qui est grossier comme l'est Donald Trump, est-ce que finalement ça ne parle pas, en tout cas, à une partie des États-Unis?
Okay, yes, of course. But if you also
oui,
to give you a counter-example.
Mais pour vous donner un contre-exemple, il faudrait pas aller dans cette direction, mais si vous lisez les romans de guerre américains, c'est toujours sur des conscrits, sur la façon dont la stupidité des officiers supérieurs, des généraux, c'est toujours le cas, c'est la tradition américaine.
Lorsque vous êtes critique des républicains, vous l'êtes également de la gauche et notamment de la gauche radicale. Vous avez été particulièrement intéressé par un mouvement Occupy Wall Street et vous avez tenté de mettre en équivalence le mouvement Occupy Wall Street dans sa stratégie et les Tea Party, autrement dit l'extrême gauche et l'extrême droite américaine. Et vous avez jugé que les Tea Party, que l'extrême droite américaine était beaucoup plus habile, Thomas Frank, que l'extrême gauche. Expliquez-nous pourquoi.
Well, the Tea Party succeeded.
Parce que le Tea Party a réussi. Le Tea Party était un mouvement très malin. C'était un faux mouvement de protestation qui a été construit de façon active par des dirigeants de la droite à Washington, dans la capitale. Moi, je suis allé à la première manif du Tea Party. Je l'ai vu de mes yeux. Il y avait tous les lobbyistes, tous les gens qui avaient des groupes de réflexion de la droite. Mais ça a pris. Et aujourd'hui, fondamentalement, c'est eux qui sont au pouvoir aux États-Unis. Paul Ryan, l'un de leurs dirigeants, est aujourd'hui le speaker de la Chambre des représentants. Occupy Wall Street, c'était très semblable, mais ils n'ont eu quasiment aucun impact sur la classe politique. Donc, ils n'ont pas de représentants au Congrès.
Mais vous dites pire que ça sur Occupy Wall Street. Vous dites que l'extrême gauche américaine est amoureuse d'elle-même, qu'elle n'a pas de revendications.
Yes. Now, I say that is true.
Je le dis, c'est vrai. Mais tout d'abord, il faut se souvenir, c'est important, que moi j'ai soutenu Occupy Wall Street à l'époque. Et je méprise profondément Wall Street et ce que Wall Street a fait pour mon pays et ce qu'ils ont fait au monde entier, à l'Europe. Ce sont des gens qui auraient dû être poursuivis pour ce qu'ils ont fait. Leurs banques auraient dû être fermées. Mais ce mouvement de protestation n'a en rien aidé à cela. Ils n'ont jamais eu de liste de choses à faire. Il n'y a rien dont on puisse se souvenir à leur sujet. Ils ont occupé une partie de New York. Ils ont dit, on est contre Wall Street. Ouais, super. Moi aussi, je suis contre Wall Street. Mais ils ont occupé une petite partie. On savait que la police allait arriver et les déloger. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont laisser? Ben, ils n'ont rien laissé derrière eux. Et ils avaient une occasion tellement extraordinaire. C'est comme Obama, une telle occasion extraordinaire et rien n'en est resté.
Mais alors ça, c'est un vrai problème pour la gauche américaine, Thomas Frank, puisque d'un côté, vous avez une droite qui est très cortiquée, qui a un programme, qui a des soutiens, et de l'autre, vous dites que l'extrême gauche et la gauche américaine a une culture de la participation. C'est-à-dire que finalement, dès lors qu'ils font des manifestations, ils sont heureux d'en faire sans avoir de programme défini. C'est un mouvement amoureux de lui-même. C'est-à-dire vous êtes pratiquement plus critique de la gauche que de la droite. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, cette gauche, pour que celle-ci vous paraisse à même de gouverner le pays?
Well, for starters, I should say that I'm much more critical of the right.
Non, je suis beaucoup plus critique de la droite que de la gauche. La droite, c'est le grand problème de notre temps, de Ronald Reagan jusqu'à aujourd'hui. En fait, de Richard Nixon jusqu'à aujourd'hui. 50 ans de ces mecs-là.
Mais disons que ça n'est pas votre famille. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas des mots aussi durs vis-à-vis de la droite, puisque ça n'est pas ce que vous...
Le paysage.
Quand je regarde les manifestations de la gauche, je pense au mouvement des droits civiques des années 60, des mouvements contre la guerre du Vietnam, et par-dessus tout, du mouvement travailliste des années 30. Ce sont des mouvements avec des réclamations extrêmement fortes et qui ont réussi à obtenir des choses. Ils ont changé la façon dont l'Amérique fonctionne. Et le mouvement de gauche de notre temps ne s'en approche absolument pas.
Et s'il ne s'en approche pas, est-ce que par exemple avec un programme économique qui serait un programme plus solide, plus articulé, est-ce que d'après vous, il aurait plus de facilité à convaincre des électeurs, Thomas Frank?
Yes, it would.
Oui, ça le serait.
If Occupy had
si Occupy Wall Street avait eu une liste de principes ou de demandes ou un manifeste, vous et moi, on l'aurait entre nos mains aujourd'hui et on mettrait le doigt sur tel point, et qu'est-ce qui est arrivé avec ci, qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Mais on n'a rien entre les mains. Tout homme politique, vingt politiques aux États-Unis aurait dû répondre à ces listes. Et à la place de ça, on n'a rien.
Quel rôle les médias jouent-ils, Thomas Frank, à la fois dans l'élection de Donald Trump, dans la manière dont Donald Trump a également instrumentalisé la haine des médias?
Donald Trump n'a pas été le seul à instrumentaliser la haine contre les médias. Nixon avait déjà ça. Son vice-président, Spiro Agnew, vous vous souvenez, qui adorait haïr les médias. Newt Gingrich, Ronald Reagan haïssaient les médias. C'est une tradition de la droite américaine. La différence avec Donald Trump, c'est que tout d'abord, les médias ont été obsédés par lui parce que c'était une star de la télé. Il avait une émission de télé, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Il avait ce programme absurde à la télé. Ils étaient obsédés par lui. Et les médias ont décidé finalement qu'il ne fallait pas être neutre, qu'ils pouvaient étriller un candidat et qu'ils pouvaient étriller ses soutiens. Et en fait, il y a eu un retour de manivelle. Et en étriant tous ces gens-là, eh bien, ça a apporté de l'eau au moulin du mouvement de haine contre les médias. Les gens aux États-Unis méprise totalement les médias.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment tous les médias, je parle des médias officiels, des médias qui sont considérés comme étant des médias sérieux, je mets tous les guillemets nécessaires autour de cela, tous ces médias haïssent Donald Trump et ça ne contribue pas véritablement à faire baisser sa popularité.
Yes, that's right.
Ben c'est vrai. C'est fascinant. Peut-être que c'est le prochain bouquin que je vais écrire. Mais regardez de cette façon. C'est un pays de 320 millions d'habitants, les États-Unis. Il y a deux journaux qui ont de l'importance. Dans un pays de cette importance, et ces deux journaux, le New York Times et le Washington Post, ils sont exactement semblables dans leurs opinions, dans leur une, dans la façon dont ils prennent position sur l'information. Ils sont exactement identiques. Et tous les médias américains suivent ces deux journaux.
Ce
n'est pas une situation saine. C'est très facile de regarder ça. Vous savez, nous sommes à une époque où tout le monde peut être sur l'Internet, avoir un blog, regarder ces journaux. Ils sont strictement contrôlés. Et c'est très facile de les considérer comme des organes de propagande.
Contrôlés, vous voulez dire que le Washington Post appartient à Jeff Bezos, autrement dit à Amazon. Amazon qui est un adversaire déclaré de Donald Trump, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, sert votre thèse, puisque vous considérez qu'il y a une alliance objective entre Wall Street et la gauche américaine.
Yes, but the Washington Post was
le Washington
as I described
Post,
even before Jeff Bezos.
Même avant Jeff Bezos.
Anything, Jeff Bezos has
comme je le décris, ce que Jeff Bezos a fait, c'est qu'il a amélioré la qualité du Washington Post. C'est un meilleur journal aujourd'hui. Et en passant, Bezos est intéressant aussi parce que aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche aux États-Unis et son entreprise est extrêmement puissante et il est controversé de centaines de façons. Il n'est pas très gentil avec ses employés. Ça a été le sujet de beaucoup d'articles dans la presse américaine. Lui, c'est une cible légitime de la critique politique. Il n'est pas légitime d'attaquer le Washington Post en l'attaquant lui. Ça, c'est pas acceptable.
Mais c'est quand même une vision très désespérée que la vôtre lorsque vous décrivez l'Amérique. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des individus comme Donald Trump et le Parti républicain. De l'autre, vous avez des démocrates qui, finalement, sont inféodés à Wall Street et agissent, comme vous le dites, pour Jeff Bezos. où est l'espace politique, Bernie Sanders était une solution?
Vous avez tout à fait compris ce dont je parle. Nous avons deux journaux qui sont importants. L'un d'entre eux est possédé par l'homme le plus riche du monde. Ça vous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'Amérique. Et le Parti démocrate est maintenant se rallie à l'homme le plus riche du monde, en dépit de tout ce qu'il a fait, parce que lui est propriétaire de ce journal et qu'il est un ennemi de Donald Trump. Et ils vont laisser de côté, ils vont tourner leur regard de l'autre côté, parce qu'ils haïssent Donald Trump. C'est un argument stupide. Vous venez de mentionner Bernie Sanders. Eh bien oui, il y a une solution évidente à tout ce que j'ai décrit, ce que je décris depuis 20 ans. Et c'est tellement simple, et c'est simplement ça. La politique de Franklin Delano Roosevelt. Le Parti démocrate devrait redécouvrir ses racines au sein du monde ouvrier, devrait leur parler, leur donner en vrai ce que Donald Trump prétend faire. Eh bien, Donald Trump apparaîtrait comme le clown qu'il est.
En dehors de Bernie Sanders, qui aujourd'hui apparaît un peu âgé pour se présenter à la prochaine présidentielle, est-ce que vous avez d'autres noms en tête, Thomas Frank, pour porter un projet qui pourrait vous paraître être un véritable projet digne du Parti démocrate américain ?
Yes, there's many.
Oui, il y en a beaucoup.
C'est
Elizabeth Warren sur laquelle j'aimerais bien appeler votre attention, sénateur du Massachusetts. Elle est très très bonne quand elle parle des problèmes de la classe moyenne et de ce qui se passe avec des gens parmi lesquels j'ai grandi. Elle est originaire de l'Oklahoma, je pense qu'elle est très très bonne. Il y a un sénateur de l'Ohio, et là son nom m'échappe pour l'instant, je suis vraiment désolé, mais il me pardonnera.
Sherrod Brown,
un excellent sénateur de l'Ohio.
Vous restez avec nous, Thomas Frank. Votre livre « Pourquoi les riches votent à gauche » est publié chez Agone. Vous avez été traduit dans les matins de France Culture par Maître Zlotowski, que je remercie.